Bonjour. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de présenter le premier séminaire dans le cadre du cours invité du professeur Frédéric Magnès aujourd'hui. Donc, le sujet de ce séminaire va être le réseau de communication quantique vu par une physicienne ingénieure. Donc, en fait, il faut comprendre, donc, ça va mélanger un petit peu des concepts d'informatique et de physique. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut appréhender ces questions des réseaux de communication quantique sous cet angle. Donc, pour commencer ce séminaire, je vais parler un petit peu aux informaticiens et ingénieurs entre vous qui connaissent bien les réseaux informatiques, qui on les utilise quand même tous les jours. Donc, comment on les définit un réseau informatique, qu'on appelle en anglais Data Communication Network? C'est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. C'est ce qu'on trouve sur Wikipédia. C'est une définition très, très, très simple d'un réseau informatique. En cherchant un peu, on découvre une histoire absolument passionnante de ces réseaux informatiques qui commence même aux années 1960, quand c'était les premières liaisons entre apparemment un ordinateur un peu primitif et une imprimante. Okay, donc c'était une toute petite distance. Et puis après, ça continuait, et on connaît aujourd'hui l'Internet. Et donc là, on découvre vraiment une histoire très intéressante entre les réseaux Cyclades, que j'ai appris avec beaucoup d'intérêt, étant d'origine grecque et amoureuse des Cyclades, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc l'initiative française dans les années 1970 sur les réseaux s'appelait comme ça. Et puis, du côté des États-Unis, il y avait ARPANET. Et finalement, c'est ARPANET qui a quand même dominé. J'espère que pour les réseaux de communication quantique, ça ne sera pas le cas. Ce sera la France et l'Europe qui vont avoir les derniers mots. Mais par contre, finalement, les concepts qui étaient développés dans le cadre de ces travaux du réseau Cyclades et d'ARPANET, on les retrouve aujourd'hui. Ce sont vraiment des protocoles qu'on utilise aujourd'hui dans des réseaux qu'on utilise tous les jours. Donc, on les utilise pour faire quoi? On les utilise pour transférer des textes, des données, surtout, Internet, des communications vocales, des images. On a vraiment du mal à imaginer un monde aujourd'hui sans ces réseaux d'informatique. On peut maintenant aller voir un petit peu plus en détail comment c'est organisé. On ne va pas tout faire ça au quantique. Vous allez voir qu'on va rester sur plutôt la première couche et puis toute dernière. Mais c'est ce qu'on appelle, certains d'entre vous reconnaîtront certainement cette division par couche d'un réseau informatique. On retrouve donc une série, une organisation verticale d'un réseau informatique qui part de la couche physique, donc où on travaille au niveau du bit d'information, qui est une transmission binaire, numérique, analogique. Et puis après, on va de plus en plus haut dans les couches réseau, où maintenant on essaye d'adresser ces bits, déjà séminés, trouver le bon parcours à travers les réseaux, transporter finalement des paquets ou des segments de ces données, et puis ensuite on passe sur les couches applicatives où ça donne finalement les services que nous, en tant qu'utilisateurs, consommateurs, si je peux dire comme ça, des réseaux informatiques qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est l'organisation OSI, comme on dit, Open Systems Interconnection, des réseaux. Qu'est-ce qui est aussi important, ça va nous occuper un tout petit peu, c'est la portée. On va parler pas mal de portée dans les séminaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous allez voir évidemment que la portée est un sujet, un défi énorme pour les communications quantiques. C'est pour ça qu'ils insistent là-dessus. Donc, on peut passer d'un réseau personnel ou même d'un bus informatique qui est dans l'ordre de centimètres ou mètres, et puis après passer à un réseau local qui est, disons, jusqu'à un kilomètre d'un campus, réseau métropolitain qui est dans l'ordre de grandeur d'une ville, ensuite très longue distance où on commence à penser au niveau d'un pays, d'un continent, et finalement Internet qui est à l'échelle planétaire. Et on va voir comment on va réussir à faire ça dans notre monde. Finalement, on peut parler des bus, des étoiles, des anneaux, donc c'est une façon de penser à nos réseaux. Je ne vais pas beaucoup insister sur la topologie, mais c'est bien d'avoir en tête que c'est important aussi, surtout pour les couches intermédiaires que vous voyez là, comment transporter, comment ce réseau est construit. Donc, du coup, Dans le monde quantique, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans les cours de Frédéric Magnez? Vous avez vu qu'on change complètement les codases de notre couche physique. Donc, on passe d'un bit binaire qu'on connaît tous à un qubit, donc les bits de base d'information quantique qui portent l'information quantique. Qui a ces... Moi, j'utilise ici la sphère des blocs. C'est comme ça qu'en physique, on montre souvent les bits qui montrent qu'un qubit peut prendre ces états de superposition que vous avez vus, qui se trouvent sur la surface de cette sphère. À se faire des blocs. Et donc, du coup, le fait qu'on peut coder l'information de cette façon-là change tout. Donc, ça va être notre base pour dire que maintenant qu'on code les informations différemment, ben, il faut bien que ça change tout à toutes les couches. Et on va voir justement comment on veut faire ça, quelles sont les applications. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler beaucoup des questions des routages, même s'il y a énormément beaucoup de travaux qui se passent aujourd'hui. Ça va être plutôt sur la base physique et liaison pour voir un petit peu comment les choses s'organisent, et puis tout à la fin des applications pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais il y a, j'insiste, qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau quantique? Un réseau quantique de communication quantique est un ensemble de systèmes quantiques reliés entre eux pour échanger des informations. Ça, c'est évidemment la toute première chose, comme on a vu pour les réseaux informatiques. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Utiliser les propriétés fondamentales de la mécanique quantique que vous venez de voir. Donc, superposition, intrication. Moi, j'utilise le mot intrication au lieu d'enchevêtrement. C'est la même chose, d'accord? Donc, c'est une question d'habitude. Et des mesures, donc, que vous avez vues, donc ça c'est les propriétés fondamentales de la mécanique quantique, afin de renforcer des services des réseaux informatiques classiques ou d'en créer de nouveaux. Donc ça c'est important. Donc toutes les applications qu'on peut voir on ne va pas créer forcément de nouveaux services. Il y en aura. On peut imaginer qu'il y aura quelques services qui sont facilités par le fait qu'on peut faire des choses comme la téléportation, par exemple. On peut imaginer, mais surtout, ce qu'on va pouvoir démontrer, c'est qu'on peut renforcer certaines applications déjà existantes avec notamment une meilleure sécurité. D'accord, ou une meilleure efficacité. Donc, l'idée est de montrer un avantage grâce aux ressources quantiques dans le cadre de ces protocoles et des réseaux de communication. Donc là, je schématisais un petit peu comment on rassemblera un réseau de communication quantique comme ça. Vous voyez des serveurs et quelques petits ordinateurs quantiques qu'il faut comprendre. Et aussi, la question des parties d'adversaires est très présente quand on parle des réseaux de communication quantique, parce que justement, comme vous avez vu au cours et comme on va en discuter aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'applications qui sont liées plus ou moins à la cryptographie et à la sécurité qui sont attendues, en plus, bien sûr, du calcul quantique. Du côté des réseaux de communication quantique, on attend beaucoup du côté de la cryptographie pour un avantage quantique. Avant d'avancer, j'aimerais faire quelques remarques importantes pour savoir un petit peu, pour mettre un peu le contexte. Donc, il y a eu un gros malentendu souvent que les réseaux quantiques vont remplacer les réseaux classiques de la même façon que la distribution quantique de clés dont a parlé Frédéric va aller remplacer tous les systèmes cryptographiques classiques. Donc ça, c'est faux. Et de la même façon qu'un ordinateur quantique ne va pas remplacer tous les ordinateurs classiques, les réseaux quantiques n'ont pas vocation à remplacer les ordinateurs portables qu'on a aujourd'hui pour envoyer des messages ou des SMS, etc. Ou faire la télé, au moins pas encore. On verra si dans le futur très lointain tout se passe par le quantique, ce sera le cas. Mais pour l'instant, on se concentre sur des choses bien ciblées pour lesquelles on peut montrer un avantage. Ensuite, quels sont les systèmes qui sont reliés par les réseaux quantiques? On a des systèmes, les nœuds donc, du réseau, qui peuvent être des processeurs quantiques, donc à l'image, à l'instar des réseaux d'informatique dont on vient de parler, des capteurs quantiques. Ça, c'est un sujet qu'on ne va pas beaucoup couvrir aujourd'hui ou dans les cours, c'est ni les calculs ni la communication quantique. C'est le troisième grand pilier des technologies quantiques qui est la métrologie et les sensing quantiques qui nous amènent vers des systèmes de mesure très, 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 très performants et plus précis. Et donc, en les reliant entre eux, de capteurs quantiques, on peut imaginer des performances accrues. Donc, il peut avoir un intérêt de relier des capteurs quantiques. Ça donne des applications comme les sensing répartis. Ensuite, on aura des mémoires quantiques. On va en parler un peu plus tard, des mémoires quantiques, ou finalement de simples dispositifs de génération et de mesure d'état quantique qui font un peu des clients, si je peux le dire. Donc, dans un système de serveurs clients, on imagine quelques processeurs quantiques très puissants. Ça peut être quelques ordinateurs quantiques universels ou même simulateurs, donc de plus petite taille. Vous allez voir ça beaucoup plus en détail dans le reste du cours qu'on peut avoir quand au séminaire de la suprématie, par exemple. Et donc, tous ces systèmes quantiques peuvent être reliés. Et il y a toujours un avantage à montrer en faisant ça. Donc, pour échanger des informations, mais aussi pour démontrer des applications nouvelles. On va parler beaucoup de photons. Okay? Donc, dans le domaine de la communication quantique, les photons, je rappelle à tout le monde que ce sont les particules élémentaires qui incarnent l'aspect corpusculaire de la lumière, donc c'est la lumière, sont les porteurs idéaux de l'information quantique dans le cadre des réseaux de communication quantique. Nos qubits, donc, seront photoniques. Donc, souvent, quand je donne moi-même, travaillant avec des systèmes photoniques, je confonds les deux. Pour moi, tous les qubits sont photoniques, mais évidemment, vous allez voir que quand on parle d'ordinateurs quantiques, ce n'est pas du tout le cas. Et là, on peut avoir des plateformes expérimentales en silicium, en supraconducteur, en atomes froids, en ions piégés. Il y a tout ça, des systèmes physiques qui peuvent servir pour porter l'information quantique. Mais pour la communication quantique, on va utiliser la lumière, les photons. D'accord ? C'est assez spécifique et il n'y a même pas de compétition. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas comme pour l'ordinateur quantique où on ne sait pas trop ce qui va se passer, quelle plateforme va gagner. Et donc, pour la communication quantique, pourquoi ? Parce que la lumière se propage facilement sur des longues distances. On sait déjà qu'il y a des fibres optiques qui transportent la lumière pour les réseaux de télécommunications. Et c'est parce qu'ils aussi sont en général robustes face au bruit ambiant. Donc, ils décohèrent moins vite, disons, en présence des bruits externes. Et donc, les canaux de transmission quantique vont être notre fibre optique et l'espace libre, d'accord ? C'est pour ça qu'on va voir des satellites de temps en temps, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ça peut passer donc par l'atmosphère, par où la lumière peut passer, en gros. Okay. Donc, c'est un petit peu la fibre optique et l'espace libre. Donc, vous allez voir, ça va peut-être vous évoquer la fibre optique qui vient chez vous pour amener l'Internet. Donc, on sait qu'il y a des réseaux de télécommunications et donc il y a une infrastructure déjà sur place. Et on peut se poser la question, pourquoi on ne peut pas utiliser la même infrastructure ou où est-ce qu'on peut utiliser la même infrastructure pour les communications quantiques? Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce n'est pas si facile que ça. Et finalement, pour passer un petit peu aux applications, les applications, comme on va voir là tout de suite, dépendent de l'étape du développement du réseau quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais vous montrer ça. Donc, il y a eu dans une feuille de route qui a été publiée il y a maintenant 2-3 ans par l'équipe de Delft, que je trouve pas mal parce que ça résume finalement assez bien qu'est-ce qu'on peut attendre des réseaux de communication quantique. Et on va la suivre un petit peu. Donc, vous voyez, il ne faut pas confondre avec les couches, hein, aussi, ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est juste, on passe ici des bains en eau à des étapes de plus en plus complexes d'un réseau de communication quantique et à droite, on voit que les fonctionnalités, donc les applications auxquelles on peut avoir accès si on ajoute, par exemple, une mémoire quantique, s'élargit par rapport à ce qu'on peut avoir attendre d'un réseau de communication quantique sans mémoire quantique. Donc, tout en bas de cette division d'applications, on trouve des applications, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus après, mais après passer aux couches supérieures, avec des répéteurs fiables, comme on les appelle. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire, qui nous permettent en gros de faire la distribution quantique des clés du type que Frédéric nous a montré avec le protocole BB84, etc. Et d'autres aussi protocoles que vous allez voir dans les cours d'après, comme les tirages à pile face ou les... mise en gage. Donc, ce type de protocole qui demande finalement pas beaucoup d'autres choses qu'une Alice et un Bob, d'accord, des interlocuteurs qui doivent communiquer. Ensuite, on passe un petit peu plus au nord avec la génération d'intrication. Donc, ça on va parler de ça un petit peu. Et finalement, si on ajoute une mémoire quantique, ça nous permet d'avoir accès à des protocoles de plus en plus compliqués, comme notamment un protocole très important qui est le calcul aveugle et le calcul délégué, que vous allez voir tout à la fin, il me semble, là, tout à la fin du cours, les tout derniers cours, les séminaires. Ça va être justement en juin, ça va être ces applications de couches supérieures de l'Internet quantique auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Ensuite, on espère ajouter des processeurs avec un petit peu quelques qubits où on corrige les erreurs. Et ça nous donne encore accès, par exemple, au calcul distribué. Et finalement, on peut imaginer d'avoir des calculateurs, des vrais processeurs quantiques, ce qui complexifie encore plus les applications auxquelles on peut espérer. Donc, commençons par tout en bas. Vous avez vu les protocoles BB84 dans les cours tout à l'heure. Donc, moi, je vous donne la vision d'une physicienne du même protocole, d'accord? Je vous rappelle, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu qu'il y a Alice qui génère quatre états, qu'on les appelle les états BB84, qui souvent sont codés sur la polarisation des photons uniques. Dans les cas du cours, ça c'était très mathématiquement, on n'a pas parlé de photons, on a dit juste que c'était un qubit. Donc ici, je vous dis que ça peut être un qubit, ça peut être une polarisation du qubit que vous avez vu d'ailleurs dans le cours. C'est une des caractéristiques très importantes de ces particules. Et qu'on peut, appartiennent, les quatre états, dans deux bases non orthogonales. D'accord ? Donc, on a l'horizontale verticale d'un côté et la diagonale antidiagonale de l'autre. Donc, on va imaginer un système qui génère ces quatre états aléatoirement. Donc, gardons en tête qu'il faut bien un générateur de nombres aléatoires. C'est vraiment la base de la sécurité de ces protocoles de faire ça aléatoirement. Et vous allez voir dans le séminaire de la semaine prochaine quelle est l'importance de certification de ces nombres aléatoires pour beaucoup, beaucoup d'applications aux communications quantiques. Ensuite, ces états-là donc, sont choisis aléatoirement, sont envoyés à travers le canal quantique qui peut être, comme on a dit, une fibre optique ou l'espace libre. Ensuite, je vous montre juste un exemple de comment on peut analyser cette polarisation dans les deux bases. Donc, on va choisir encore, par exemple, en utilisant une lame séparatrice, un élément optique extrêmement simple, soit de mesurer sur la première base, soit de mesurer sur l'autre base avec des détecteurs de photons uniques. Donc, je vous montre ici vraiment des éléments d'un point de vue expérimentalement, disons des systèmes physiques, comment on pourrait implémenter le protocole BB84. Parce que ça va nous servir un petit peu pour voir un petit peu où sont les problèmes dans ces protocoles. D'un point de vue des principes théoriques, comme a été expliqué au cours, le théorème du non-clonage nous permet de savoir que l'espionne, donc l'adversaire, Eve, ne peut pas copier les états envoyés par Alice. Elle ne peut pas faire ça. On ne peut pas cloner une série d'états quantiques non orthogonaux sans introduire du bruit, d'accord, sans introduire d'erreur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas permis par la mécanique quantique. Ensuite, le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'Eve ne peut pas mesurer non plus sur les deux bases à la fois. D'accord, elle ne peut pas, et c'est pour ça qu'il y a eu l'attaque qui nous a expliqué Frédéric dans les cours d'avant, où c'est pas possible sans introduire encore une fois avec une certaine probabilité d'erreur d'intercepter la communication et d'essayer d'avoir accès sur l'information de la clé. Ensuite, il faut bien garder en tête, il y a toute une discussion en ce moment dans la communauté des cryptographies quantiques partout dans le monde. Il faut bien avoir en tête que la distribution quantique des clés, même si c'est une des applications les plus importantes du domaine des communications quantiques, ne donne pas en elle, toute seule, une réponse au problème des chiffrements global des messages. Il faut bien les combiner avec des protocoles d'authentification et de chiffrement. D'abord pour authentifier. Donc, et d'ailleurs, le mot distribution parfois n'est pas considéré très adapté. Il faudra plutôt parler de négociation ou, comme on a entendu, d'amplification des clés parce qu'il faut bien une première clé d'authentification initiale. et puis après des chiffrements. Donc vous avez vu de certains cas, on peut utiliser le one-time pad, on peut aussi utiliser des algorithmes deep post-quantiques ici, qui sont des algorithmes classiques, résistants face aux attaques par ordinateur quantique. Ici, on ne va pas faire un cours ou un séminaire sur la cryptographie post-quantique, mais c'est un sujet extrêmement important du domaine, et toute la communauté s'accorde aujourd'hui pour dire qu'à la fin, ce sera sans doute une combinaison d'algorithmes post-quantiques et quantiques qui serviront comme pour fournir une sécurité renforcée qui peut aller dans certains cas et sous utilisation de bons algorithmes jusqu'à la sécurité dite information theoretic, donc c'est-à-dire ce qu'on a entendu comme inconditionnel, c'est-à-dire sécurité dans le sens de la théorie de l'information. D'accord, donc ça c'est une petite parenthèse sur la QKD. On ne va pas insister beaucoup plus là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et puis après on va passer aux aspects réseau, justement, voir pourquoi il nous faut des répéteurs fiables, etc. Et donc comment on juge les performances d'un système comme ça? On montre en général la distribution, les taux de génération de clés secrètes en fonction de la distance aux fibres ou de perte du canal. Et donc là, vous voyez quel était l'état de l'art il y a 5 ans maintenant, parce que ça avance, l'état de l'art assez vite dans ce domaine. Vous voyez beaucoup de choses dans ces graphes. Je vais juste vous pointer certains points importants. Tout d'abord, vous voyez ici qu'il y a beaucoup de protocoles. D'accord. Pour la même fonctionnalité, il y a plusieurs protocoles. Donc, il n'y a pas que le BB84. C'est ça qui est très important à comprendre. Comme pour beaucoup de protocoles réseau d'ailleurs, pour tout ce qu'on fait, pour la même fonctionnalité, il y a plusieurs protocoles y arriver. Et pourquoi? Parce qu'il y a en général une réponse à des imperfections. Donc, même si la distribution quantique des clés en principe fournit une sécurité inviolable, on a vu ça, comment c'est possible? En réalité, il y a certaines imperfections qui doivent être prises en compte. Je vous montre un exemple. Si on tourne ici, retourne dans cette image-là, vous voyez quelque chose. J'avais mis une source de photo unique. C'est comme la source qui génère des qubits individuels. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. On n'aura jamais un qubit parfait. 01, 01, 01, etc. Il y a une source de photo unique, ça existe, d'ailleurs, le progrès est assez spectaculaire dans les sources de photo unique, elles deviennent de meilleure en meilleure, mais c'est jamais parfait. Et donc, dans la vraie vie, on utilise des lasers, d'accord, donc des lasers qui produisent de la lumière cohérente, sauf que les lasers suivent une statistique pour la génération des photons. Ils produisent par exemple des impulsions, et dans chacune des impulsions, on n'a pas de façon déterministe un photon, d'accord, qu'on peut préparer. On a une distribution poissonnienne. Et en fait, même si on atténue énormément, énormément, énormément notre laser, de temps en temps, il y aura beaucoup d'impulsions vides, il y aura quelques-uns qui auront un photon, et on aura toujours la possibilité, probabilité, parce que c'est un processus probabiliste, d'avoir plus d'un photon. Et donc là, on peut montrer que l'espion, Eve, peut faire des attaques très, très intelligentes, où elle peut utiliser l'effet qu'il y aura parfois des photons, garder un dans sa mémoire quantique, laisser l'autre passer, Bob qui fera sa mesure, annoncer la base de sa mesure à Alice, comme suivant les protocoles. Et dans ces cas-là, Eve pourra avoir toute l'information sur ces photons-là, sur ces qubits-là, sans avoir à perturber la communication. Il y a toute une histoire comment expliquer des attaques comme ça qui sont dues au fait que les preuves de sécurité, parfois, font des hypothèses qui ne sont pas satisfaites dans la vraie vie. Dans les vraies applications. D'ailleurs, les canaux cassés et ce type d'attaques sont connus partout. Tout le monde qui travaille dans la cryptographie sait qu'il y a des failles de sécurité qu'il faudra bien prendre en compte. Donc voilà, en réponse à ces problèmes du BB84, il y a eu notamment ces protocoles qui s'appellent Decoy State. Donc c'est l'état de l'air, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça résout ces problèmes. En réponse à la nécessité, par exemple, si on peut éviter d'utiliser des technologies très spécifiques comme des détecteurs de photons uniques, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Eh bien, on a inventé le protocole, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en France, des variables continues, c'est le protocole CV que vous voyez ici, qui utilise n'utilisent pas de détecteurs photoniques, ils utilisent les codases dans les propriétés du champ électromagnétique. Encore une fois, c'est malheureusement trop long pour expliquer, mais ça montre qu'on peut aussi, et donc du coup, ils utilisent des détecteurs qui sont utilisés dans le monde plus classique, disons, des télécoms. Et ce genre de choses. Donc chacun de ces protocoles, en gros, a répondu à un défi lié aux vraies implémentations. Et il y a toujours de nouveaux protocoles qui apparaissent. Des autres points qu'on voit ici qui sont importants, j'avais promis de ne pas utiliser une notation ici, mais je n'ai pas réussi. Donc ça, c'est l'erreur que vous voyez là, qui est une matrice de densité, mais je n'ai pas pu éviter d'inclure quand même cette équation pour vous montrer. On n'a pas, comme a expliqué le professeur tout à l'heure, on n'a pas le temps de passer en revue, malheureusement, toutes les preuves de sécurité. Ce n'est pas le but de ces séminaires et de ces cours, mais je voulais quand même vous parler juste en quelques mots, c'est ce qu'on appelle la epsilon security, donc la sécurité epsilon des protocoles de distribution quantique des clés. Ce que vous voyez ici nous dit tout simplement que la epsilon security, ça veut dire que l'état qui est partagé, donc ça c'est l'ERO, c'est une façon très spécifique de décrire un état quantique général. Donc la probabilité, l'état partagé entre Alice Bobeev n'est pas distinguable jusqu'à un paramètre epsilon d'un état où d'une situation où l'état de Eve serait séparable, vous voyez ici les produits tensoriels par rapport à l'état d'Alice et Bob. Et donc ça, c'est la définition de sécurité moderne des distributions quantiques des clés. Elle est extrêmement importante. Elle prend en compte tout un tas de choses très importantes. Quelles sont les attaques qu'on prend en compte? Est-ce que notre protocole est composable? Est-ce qu'on prend en compte les effets de taille finie qui sont quand même très importants dans les vraies réalisations des systèmes de distributions quantiques des clés, etc. Et finalement, ce qu'on remarque, donc ces protocoles, c'est pour ça que j'ai dit ça, ces protocoles n'ont pas tous la même preuve de sécurité, le même niveau de preuve de sécurité. Il y a ce que j'appelle mature dans ces figures. Il y en a ceux pour lesquels on connaît la sécurité, on a des preuves de sécurité pour les problèmes les plus jusqu'aux, disons, les attaques les plus générales, et d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. On remarque aussi, et c'est là où j'aimerais insister, qu'on voit des limites fondamentales du taux et de la portée. Donc de la portée, vous voyez là, on voit qu'inexorablement, la distance de l'optique, de la fibre optique augmente. Ça veut dire qu'on perd nos photons. D'accord ? On perd nos photons, ça veut dire que notre taux de génération de clés secrètes diminue. Et ça, on va les retrouver, on va voir que ça va être un des gros problèmes des réseaux à longue distance des communications quantiques, comment s'affranchir de ces pertes. Et puis, il y a aussi une limite fondamentale du taux. Ça ne se voit pas immédiatement sur cette figure, mais en fait, il y a toute une théorie qui nous montre qu'il y a aux capacités des canons quantiques. Donc, c'est toute la théorie autour des capacités des canons quantiques qui nous dit qu'on ne peut pas échanger, on ne peut pas échanger via des canaux quantiques bruités une quantité infinie d'informations. Il y a des bornes supérieures. Donc passons au réseau. Donc vous avez vu qu'on a des problèmes avec des pertes. Donc qu'est-ce qui se passe si la distance entre Alice et Bob dépasse la portée maximale du système? Disons qu'on a un système QKD qui est comme celui-là, même le plus grand que vous voyez là, 350 km. D'accord, c'est lui qui arrive le plus loin. Qu'est-ce qu'on fait si on a un réseau où ils aimeraient communiquer ces messages à plus longue distance? Donc en fait, ce qui se passe dans les réseaux actuels, c'est qu'on utilise un système, comme on dit, de répéteurs fiables. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les répéteurs fiables? C'est tout simple. Il faut juste on utilise un répéteur R au milieu. Donc, on a un protocole de QKD entre Alice et notre répéteur qui produit la clé, la première clé. Ensuite, les répéteurs et Bob produisent une autre clé. Ensuite, les répéteurs ont accès aux deux clés. Il calcule l'XOR, il envoie ça à Bob comme un message secret, et Bob, évidemment, peut récupérer du coup les premières clés. Et c'est comme ça qu'Alice et Bob partagent finalement une clé secrète de bout en bout. Donc c'est très simple. Et qu'est-ce que ça demande? Ça demande que les répéteurs aient accès à tout, à toute l'information. C'est comme ça qu'on l'appelle répéteur fiable. Donc en fait, l'information sort du domaine quantique et ça rentre dans le domaine classique, essentiellement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans le monde. Là, vous voyez un réseau assez spectaculaire qui est mis en place en Chine, qui est quand même un des pays les plus développés dans le monde dans les communications quantiques. Vous voyez ici un réseau qui est sur un backbone de plus de 2000 km avec un très grand nombre de répéteurs de ce type, tous de ce type, avec le même protocole QKD, donc des types à l'état de l'air. Et vous voyez que dans chacun des villes, qui ont été connectés par ces réseaux-là, à Hefei, à Shanghai, à Jinan, à Beijing et à Pékin, il y a une topologie aussi différente. Ce que vous voyez, et il y a aussi les satellites, juste au cas où vous n'avez pas remarqué, les satellites aussi Misius, donc les satellites de communication quantique chinois qui a été déployé il y a 3 ans et qui est toujours en opération, participe aussi dans cette distribution donc des clés quantiques à une échelle assez extraordinaire. Et le principe, c'est exactement ce que je viens de le dire, c'est exactement le même. Donc à chaque fois, il faut relever quand même toutes les clés au répéteur intermédiaire. En Europe, on n'est pas en reste non plus. Il y a les très très gros projets européens qui s'appellent OpenQKD auxquels nos équipes participent. Là, vous voyez tous les partenaires. L'idée est de déployer des systèmes de ce type. Là, vous voyez des images d'un système commercial de la société suisse de quantique, mais aussi un prototype dans notre laboratoire, par exemple, dans un de ces protocoles, et même on le miniaturisait. Et puis, les cas d'usage dans les data centers, dans une infrastructure critique ou le partage des dossiers médicaux qui sont étudiés dans le cadre de ces projets-là, encore toujours pour la QKD. Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que les répéteurs fiables, même si c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. On peut faire mieux et on peut, par exemple, essayer de s'affranchir de ces hypothèses. Et le mot-clé ici, c'est l'intrication, l'enchevêtrement, que vous avez vu dans les cours. Je prends comme exemple quand même, juste pour une seconde, encore la QKD, et puis après, on va passer à autre chose, pour vous montrer qu'on peut prendre le protocole BB84 et l'échanger et les voir autrement comme un protocole à base d'intrication. Ou, au lieu, vous vous rappelez comment c'était avant, on avait une source de photos uniques qui envoyaient des qubits à par Alice à Bob. Ici, on a une source de photons intriqués. Vous voyez là l'exemple d'un état intriqué. Vous vous rappelez de la définition d'un état intriqué. On ne peut pas l'écrire comme un état séparable entre les deux parties. C'est ça la définition mathématique, disons, de cet état-là. Et puis ensuite, ces photons-là sont envoyés à Alice et Bob qui font leurs mesures. Donc, en fait, ça, vous allez voir dans les cours de la semaine prochaine, mais de tels états, les états intriqués, donnent lieu à ce qu'on appelle les corrélations non locales et violent des inégalités de Bell. Donc, vous allez tout comprendre là-dessus la semaine prochaine. C'est fascinant, c'est super. Et ça peut être vraiment, c'est vraiment la base de l'avantage quantique pour plein de choses en communication quantique et en calcul quantique. Donc ici, je vais juste, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, je vais juste noter que tout ça c'est lié à la propriété des monogamies, comme on appelle une intrication, qui nous dit que si les qubits d'Alice et de Bob sont parfaitement corrélés, donc les qubits qui sont envoyés par la source de photons intriqués qui sont mesurés par Alice et Bob ont des corrélations parfaites, ils ne peuvent pas être corrélés avec un troisième qubit. D'accord ? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? S'ils sont parfaitement corrélés, Eve, la partie malveillante, l'adversaire, ne pourra pas s'immiscer dans la communication et essayer d'obtenir des informations en s'intriquant avec Alice et Bob, parce que c'est ça qu'elle essaierait de faire si elle voulait obtenir des informations et perturber la communication sur la clé. Ce qui rend finalement la sécurité de ce type de protocole absolument, fondamentalement plus robuste, plus sécure par rapport à l'autre, à la sécurité des protocoles de type préparé et mesuré qu'on a vu tout à l'heure, qui se base sur, où on doit quand même faire confiance à ce qui se passe chez Alice et chez Bob, à leur mesure, etc., et qui se base sur l'effet qu'elle va provoquer des erreurs. Donc ici, il y a cet aspect non local et des corrélations entre Alice et Bob qui est encore plus fondamental. Mais par contre, on voit déjà, donc on a trouvé quelque chose qui nous affranchit de certaines des hypothèses sur la fiabilité, c'est super, mais la question est maintenant, ok, mais comment est-ce que les photons intriqués sont quand même des photons? Ils vont être envoyés à Alice et Bob et à tous les utilisateurs du réseau, mais il y aura encore des pertes, n'est-ce pas? Donc, la prochaine question qui se pose, c'est comment faire propager les états intriqués. Et c'est un des sujets les plus importants qui est étudié par les physiciens, notamment en ce moment. En ce moment, c'est les répéteurs quantiques et les théoriciens aussi. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est un des défis majeurs qui reste dans ce domaine pour pouvoir vraiment parler des réseaux de communication quantique. Donc, comme on a dit, les canaux quantiques ont des pertes et sont broutés. Et en fait, on peut facilement montrer, pour transmettre un photon sans qu'il soit absorbé, sans qu'on le perde, le nombre de répétitions augmente exponentiellement avec la distance. Donc, une fois, vous voyez, tous les temps, on perd des photons chaque fois qu'on ajoute un peu de distance. Et même quand les photons arrivent, la fidélité de l'état transmis décroît exponentiellement avec la distance. Ici, la notion de la fidélité est extrêmement importante. Je ne sais pas s'il sera utilisé au cours, mais je vous ai donné ici une définition de cette fidélité pour deux états quantiques purs. Ça montre en gros, si deux états sont les mêmes, la fidélité est 1. D'accord ? S'ils sont complètement orthogonaux, c'est 0. D'accord ? Donc ça montre combien ils sont proches, nos états. Combien se prennent nos états, et donc c'est une bonne mesure pour voir si on a réussi de faire un système de téléportation quantique ou une voie d'un état quantique. Certains d'entre vous demanderont, et ils auront raison, et pourquoi on ne peut pas utiliser des amplificateurs, comme pour des raisons de communication classique. Après tout, il y a des milliers de kilomètres sous l'Atlantique qui relient, des fibres optiques qui relient l'Europe avec les États-Unis, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas de perte, ça, même si le signal est beaucoup plus élevé, évidemment, il y a des milliers de photons dans les signaux qui traversent là, il y a quand même des centaines, des milliers de kilomètres. Eh bien, la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser des amplificateurs est que c'est l'amplification introduit du bruit. On perd nos corrélations. Il n'y a pas d'amplificateur quantique à ce jour qui n'introduit pas du bruit, qui ne détruit pas les corrélations qui sont nécessaires pour les états quantiques. Donc, on doit trouver une autre solution. Et donc, au lieu des amplificateurs, on utilise des répéteurs quantiques qui doivent donc garantir une bonne fidélité, utiliser peu de ressources et tolérer des erreurs d'opération et des mesures réalistes. OK ? Tout un programme. Et donc, pour ça, ils vont utiliser deux principes de base, la purification d'intrication et l'essence d'intrication. Et c'est des protocoles que je vais vous présenter relativement brièvement, juste pour comprendre un peu le concept derrière, parce que ça permet d'avancer vers un répéteur quantique. Qu'est-ce que c'est la purification de l'intrication? C'est une distillation des paires de meilleure fidélité en commençant par un plus grand nombre de parties imparfaites, de paires imparfaites. Donc, si on a un certain nombre de paires impaires, okay, des états intriqués avec qui ne sont pas maximalement intriqués, qui ne sont pas dans les états de Bell comme nous avons vu tout à l'heure, on va essayer de les améliorer. Donc, comment on veut faire ça? Il y a une porte, disons, une série de portes qui nous permettent ça. Ici, dans cette image, le N et D, c'est une paire intriquée avec une fidélité F. 3 et 4, c'est une autre paire intriquée avec une fidélité F encore. Et donc, on peut montrer, je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais ce n'est pas difficile du tout à montrer, que si on applique des portes C-notes de deux côtés et ensuite on détecte les deux photons qui arrivent au bout là et qu'on trouve le même résultat pour un état spécifique, et bien, si la probabilité de la porte C-note, de succès de la porte C-note est PD et la efficacité quantique de mon détecteur est état, on va montrer que la fidélité, la nouvelle fidélité de l'état qui survit, okay, de l'état intriqué qui a survécu ces processus, celui du haut, c'est une fonction un peu complexe de ces paramètres. Et on peut aussi démontrer que si la fidélité initiale appartient dans un ensemble qui est plus grande qu'une valeur F minimum, est plus petite qu'une valeur F maximale, alors dans ces cas-là, on peut augmenter la fidélité de notre nouvelle paire intriquée. Et donc, s'il n'y avait pas d'erreur, si l'efficacité quantique était 1 et si le PD est égal à la probabilité de succès de ma porte C-note est 1 aussi, on peut montrer que le F min est égal à 1 sur D. Donc il suffit que le recouvrement entre la première paire, mon paire intriquée, par rapport, ma paire intriquée, par rapport à l'état des belles parfaites, est 50%, si cette fidélité est 50%, alors on peut arriver jusqu'à un F max égal à 1. On a besoin de toute paire, on peut parfaitement améliorer la fidélité avec ces circuits-là. Si ce n'est pas le cas, eh bien évidemment, le f-min, c'est un peu plus grand qu'un sur d, et le f-max, un peu plus petit qu'un. Mais dans tous les cas, on améliore la fidélité de notre état. Et puis ensuite, c'était le fameux protocole qui était proposé par Dürr, Brigel, etc., il y a maintenant assez longtemps, donc le protocole de purification des répéteurs quantiques qui nous dit, dans ces cas-là, si on commence avec beaucoup de paires au début, on fait ces opérations-là, avec une certaine probabilité, on va réussir à améliorer la fidélité, ensuite de suite, jusqu'à ce qu'on arrive avec un état intriqué de bonne qualité, qu'on peut utiliser pour les protocoles de communication quantique. Évidemment, là, je vous montre une image qui est très gourmande en ressources. Et depuis, il y a eu des meilleurs schémas, mais je voulais vous donner l'idée de quelle est la base de cette purification d'intrication. Ensuite, une fois qu'on a fait la purification, on veut faire aussi l'échange. Je vais voir comment on va combiner les deux après pour faire un répéteur quantique. Qu'est-ce que c'est une échange d'intrication? C'est une généralisation de la téléportation quantique que vous avez vue dans les cours. Donc, Frédéric Magnette nous a montré ces circuits-là pour la téléportation quantique. Il a appelé la première partie « changement des bases de Bell ». Moi, j'appelle ça une paire intriquée. Donc, ça veut dire qu'il y a... Donc, je schématise un petit peu, évidemment. Je transpose les circuits de téléportation quantique vers un schéma un petit peu qui correspond plus au monde physique. Donc, ce qu'on fait, on prend les 0, 0 et les Hadamard et les nôtres, essentiellement, ça veut dire qu'on génère un état intriqué. Et puis, ce que Frédéric a appelé changement de base inverse, moi, je l'appelle mesure d'état de Bell, où on prend donc notre état initial, alpha 0, blesse bêta 1, on les combine avec un des photons de ma paire intriquée, on fait cette mesure d'état de Bell qui est assez spécifique, on communique le résultat de la mesure, exactement ce qui est écrit là comme X et Y, et à Bob qui fait l'opération unitaire nécessaire pour qu'il puisse récupérer l'état téléporté. Si on les voit comme ça, avec mon schéma, c'est très facile à voir après comment on peut généraliser ça. Au lieu d'avoir un état initial comme ça, un qubit, on va prendre notre qubit initial et ça va faire partie d'une autre paire intriquée. Et donc, c'est ça qui nous donne l'échange d'intrication. On commence par deux paires intriquées indépendantes. On fait la mesure d'état de Bell dans les deux photons intérieurs. On continue avec le reste du protocole et on peut montrer très facilement que les deux autres particules qui restent après ces processus deviennent intriquées. Donc, en fait, cette généralisation de téléportation d'intrication nous permet d'intriquer des particules qui n'ont jamais interagi auparavant via ces processus de téléportation généralisée. Et qu'est-ce qu'on va, si maintenant on commence à raisonner de la même façon qu'avant, si on dit que la probabilité de succès de cette mesure d'état de Bell qui est en fait, là-dedans il y a aussi une synode, comme vous avez vu, et puis l'efficacité des détecteurs est égale à état, et P1 c'est la probabilité de succès de cette opération, et bien on trouve que la fidélité de la paire intriquée générée sera une fonction de tous ces paramètres et sera toujours plus petite, on perd en fidélité en faisant ça. Donc, on connecte nos paires intriquées, mais on perd en fidélité. La purification fait l'inverse. On perd en ressources, mais on augmente notre fidélité. Et donc, si on a maintenant, si on veut combiner avec des sens d'intrication Alice et Bob via plusieurs, donc chacun de ces liaisons que vous voyez là correspond à une paire intriquée, on peut montrer qu'on peut faire en parallèle dans cette topologie un peu linéaire ces nombres de connexions. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça ensemble. C'est ça qui a fait Dürr et Brigel pour ces modèles de répéteurs quantiques. Il suffit maintenant de vouloir, si on a un canal N, en N segments, et on les divise dans des tout petits morceaux pour lesquels on sait qu'on peut avoir la bonne fidélité, on purifie, on connecte et on itère tout en toujours respectant les seuils de fidélité, avec un nombre de paires élémentaires à la base qui finalement est polynomial par rapport à la distance initiale. Donc ce protocole des répéteurs quantiques est brillant. C'est vraiment ça montrait comment on peut finalement faire propager cette intrication à travers un très long canal. Mais par contre, ça vous montre aussi combien c'est compliqué et pourquoi il n'y a pas encore un répéteur quantique. D'accord ? Donc, un répéteur quantique, si on met tout ça ensemble, ça ressemblera un petit peu à ça. On aura Alice et Bob avec... Qui veulent communiquer. On aura des processeurs locaux, des sources de photons intriquées au milieu pour permettre l'essence d'intrication, des processeurs et des mémoires quantiques pour permettre les stockages et les traitements qui sont nécessaires pour faire la purification d'intrication et l'essence d'intrication et tout cendre des processeurs. Et donc, d'où la difficulté de cette étape. Donc je vais conclure avec certaines images, donc où on est en pratique avec ça. Je vais commencer par la téléportation. Donc la première expérience de téléportation quantique, c'était il y a maintenant pas mal d'années à l'université de Vienne. Et donc là encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble vraiment après avoir schématisé un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Donc faites attention à la source EPR. Donc là, il s'agit d'un cristal non linéaire. C'est comme ça qu'on l'appelle, on ne va pas les définir aujourd'hui, mais c'est ce qui est utilisé pour générer la paire intriquée, donc le photon 2 ou 3. La paire initiale est appelée 1, l'état initial de la téléportation est appelé 1, et donc ça peut être dans ces cas précis soit un photon verticalement polarisé, soit diagonalement. Et donc, qu'est-ce qui est important, c'est que de voir que pour faire la mesure d'état de Bell, comme on l'appelle, il suffit d'envoyer ces deux photons sur une lampe séparatrice et de regarder les coûts derrière, sur le détecteur de photons uniques. Donc ça matérialise une mesure d'état de Bell partielle, d'accord, ça ne peut que nous donner l'état psi-moins, celui du début, et pas tous les états de Bell, donc ce n'est pas une mesure d'état de Bell complète dans ces cas-là. Et donc, et après, une fois que ça se fait avec du succès, que ça marche, et dans ces cas-là, on peut regarder et voir est-ce que l'état téléporté était bien l'état qui a été envoyé. Et c'est ça qu'on fait dans une expérience comme ça. On compare, on change un paramètre dans ces cas précis pour avoir une vraie interférence entre les deux, entre les qubits 1 et 2. Il faut qu'ils arrivent exactement au même moment sur la lame séparatrice. Donc on bouge un petit peu avec ces miroirs que vous voyez là, dans les chemins du 2, ces miroirs-là. Donc parfois, on sait qu'il ne va pas arriver au bon moment, donc ça va pas, la téléportation ne va pas se passer. Effectivement, quand ils ont fait cette expérience, ils ont vu que dans les cas, il faut regarder là où il y a les zéros, le délai est zéro, et on a vu que quand on a envoyé au début les qubits plus 45, ils ont vu qu'il n'y avait pas du tout de détection dans les détecteurs qui correspondaient là-bas à moins 45. Donc effectivement, c'était une vérification de la téléportation expérimentale. Aujourd'hui, ça c'était les toutes premières expériences. On a tous les protocoles avec une mesure d'état de Bell complète, et Alice et Bob séparaient des dizaines ou centaines de kilomètres, notamment avec les satellites, mais je ne vais pas les remontrer encore, je vais vous montrer un petit peu pour la dernière chose. Et puis ensuite, maintenant pour un répéteur quantique, je vous ai quand même beaucoup parlé, ok, téléportation quantique, échange d'intrication, disons qu'on sait faire, ok, on sait faire, on maîtrise maintenant. La purification, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, et faire un répéteur quantique global encore plus, là vous voyez des résultats très, très récents. C'est pour ça que je vous le montre, vous voyez, ça date vraiment de 2 ou 3 mois chacun, l'un c'était à Delft, l'autre à ICFO, à Barcelone, et je vous le montre ici parce que c'est assez intéressant, les tout premiers, c'est avec des centres NV dans les diamants qui sont utilisés ici comme des qubits mémoire, notamment. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit réseau de 3 nœuds où ils ont pu intriquer sur quelques mètres pour chacune de ces liaisons, où ils ont pu stocker l'information, ils ont pu intriquer tous les 3 nœuds entre eux. Ils ont aussi fait un protocole de swapping, donc d'échange d'intrication, et ils ont aussi aussi utilisé des qubits de mémoire, comme vous voyez ici, qui étaient les spins de ces centres V dans les diamants, pour stocker l'information. Donc ça, c'est, disons, une toute première étape vers un répéteur quantique embryonnaire. Et puis l'autre exemple que je vous montre, c'est cette intrication entre des mémoires quantiques séparées, et là aussi de quelques mètres. Donc vous voyez, tous les deux sont à l'état solide aussi. Les mémoires quantiques, il faut comprendre qu'il faut quand même un système autre que des photons pour stocker l'information. J'aurais dû effectivement le préciser ça, parce que les photons ne peuvent pas vraiment stocker l'information, sont des qubits volants. Et donc, du coup, dans ces cas-là, il faut des systèmes à l'état solide ou des atomes froids ou ce genre de systèmes physiques pour vraiment stocker l'information. Donc là, dans ces cas-là, donc, c'est des mémoires quantiques à état solide qui ont été intriquées en envoyant des photons qui ont été mesurés au centre de cette liaison. Donc, vous allez remarquer donc, quels sont les défis. Donc, la durée et l'efficacité des stockages. Il faut que je note ici que les records d'efficacité dans une mémoire quantique aujourd'hui, c'est à Paris, dans l'équipe de notre collègue Julien Laura au LKB. Et puis, il y a toujours un compromis entre la durée et l'efficacité des stockages. C'est ça le problème. Il faut que, par exemple, les mémoires quantiques que vous voyez dans l'expérience de Barcelone, c'est, pour vous donner une ordre de grandeur, c'est dans les microsecondes. D'accord. Donc, on est à peu près à cet ordre de grandeur-là pour les mémoires quantiques. Donc, évidemment, ce n'est pas très, très long. Les taux d'intrication aussi dans ce type de protocole, notamment avec les centres NV, est très bas. Et vous allez voir, évidemment, que la portée est au niveau des réseaux locaux. On parle de quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et donc, par exemple, sur le campus ici à Jussier, on a un autre but, c'est de connecter les deux labos, mon laboratoire et le laboratoire de Julien Laura, avec un système qui ressemble un petit peu à celui-là de Barcelone, où on pourra intriquer des mémoires sur un kilomètre, par exemple, et de là commencer par faire un répéteur quantique. Et je note ici la pile réseau, transport, routage et tout ça. Il y a énormément beaucoup de travaux. Je ne peux pas passer tout ça. Il y a surtout des travaux théoriques dans cette phase-là. Comment router et propager les états quantiques correctement à travers des et ça dépend énormément des topologies, bien sûr, des réseaux. En attendant de pouvoir faire mieux avec les répéteurs quantiques, on fait des applications à celles intermédiaires, de la QKD bien sûr, mais aussi de tirage à pile et face, monnaie quantique, transmission anonyme, des protocoles qui appartiennent dans le domaine de la communication complexity, qui nous permettent d'aller, qui n'ont pas besoin de répéteurs quantiques, et donc qui nous permettent d'aller à un niveau plus grand des réseaux métropolitains, même des longues distances. Et là, physiciens, informaticiens travaillent main dans la main pour démontrer un avantage quantique pour telles applications. Je vous donne ici un exemple, encore le satellite chinois qui a fait l'intrication, le QKD à base d'intrication, entre quand même 1000, ils ont réussi à intriquer donc 1120 km et les deux nés. Et puis un travail très récent qu'on a fait ensemble avec l'équipe de Sarah Dutty à l'Université de Paris, où vous voyez, on a utilisé la ressource de photons intriqués qui est sur une puce. Donc, qui est très jolie. Donc, c'est les toutes petites puces que vous voyez là au tout début de l'expérience. Et on a utilisé le fait que ces photons sont émis dans une très large bande pour les distribuer en utilisant vraiment des technologies vraiment télécom. Donc, c'est ça qui est bien quand on peut aussi appliquer des infrastructures et des technologies qui sont déjà existantes pour faire un réseau connecté jusqu'à 8 utilisateurs que vous voyez là au bout entre les différents paires qui sont donc avec des systèmes de multiplexage et des démultiplexages, on peut intriquer plusieurs paires d'utilisateurs à la fois en leur donnant à chacun une petite partie spectrale de notre signal. Et donc, on a démontré que pour chacune de ces paires d'utilisateurs, on pourrait faire aussi un BBM92, donc un protocole QKD à base d'intrication, sur des distances que j'appellerais autour métropolitaine, vous voyez ici, entre 25 et 50 km. Fibres. Donc ça, on peut déjà faire pas mal de choses rigolotes et très intéressantes et même utiles. J'ai fini avec des autres applications. On a démontré aussi la monnaie quantique qu'on est en train maintenant d'essayer de faire avec une mémoire quantique aussi. Et plus long terme, en utilisant de l'intrication multipartite. Donc ça, on n'en a pas parlé. Je vous montre un exemple d'une intrication d'un état intriqué multipartite. Vous avez vu pendant les cours ce matin, ensuite pendant les séminaires, beaucoup d'états à 2 qubits, mais il y en a aussi à 3 qubits. comme vous voyez ici. Donc ça, c'est les états G à Z. On peut tout à fait, et même plus, hein, il y a des, des qubits, on peut aller sur des longues dimensions. Et ces états d'intrication multipartite peuvent être intéressants pour des applications un peu plus complexes. Et notamment ici, par exemple, on a pu montrer qu'on peut vérifier cette intrication multipartite. Et on a fait du travail théorique qui montre qu'on peut utiliser cette étape de vérification pour une transmission anonyme. Et donc, c'est en train, on essaye en ce moment de l'implémenter aussi, de le réaliser, cette expérience dans le labo, montrer que c'est possible de faire de la transmission anonyme. Voilà, donc je vais vous montrer comme ça un ensemble d'applications possibles en attendant de pouvoir aller plus loin. Avec ça, je vais conclure. Donc, pour aller d'un réseau de communication quantique à la base d'un campus ou d'une ville, dans ce cas Paris, parce qu'elle est en train de préparer un réseau de communication quantique à Paris, jusqu'à la France. On est en train aussi de discuter avec nos collègues de Nice pour lier, relier les deux réseaux de communication quantique qui sont en cours de développement dans ces deux régions via même un satellite, à passer après à l'Europe et ensuite à toute la planète. Il y aura pas mal de temps, beaucoup d'efforts, mais j'espère vous avoir montré qu'il y a beaucoup de découvertes à faire en allant dans cette direction. Merci beaucoup.